Chapitre 7. Winston se réveilla avec les yeux pleins de larmes. Julia se blottit contre lui, somnolente, en murmurant quelque chose qui aurait pu être « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai rêvé, » commença-t-il, puis s'arrêta net. C'était trop complexe pour être mis en mots. Il y avait le rêve, lui-même, et il y avait un souvenir qui lui était lié et qui avait voyagé dans son esprit quelques secondes après son réveil. Il s'allongea les yeux fermés, encore imprégné de l'atmosphère du rêve. C'était un rêve vaste et lumineux, dans lequel toute sa vie semblait s'étendre devant lui comme un paysage un soir d'été après la pluie. Tout s'était passé à l'intérieur du presse-papier en verre, mais la surface du verre était le dôme du ciel, et à l'intérieur du dôme, tout était inondé d'une lumière douce et claire dans laquelle on pouvait voir des distances interminables. Le rêve comprenait aussi, en vérité, c'est en quoi, en un sens, il avait consisté, un geste du bras fait par sa mère et répété 30 ans plus tard par la femme juive qu'il avait vue sur le film d'actualité. Avant que les hélicoptères les réduisent tous deux en pièces, elle avait essayé d'abriter des balles un petit garçon. « Sais-tu, dit-il, que jusqu'à présent je croyais avoir assassiné ma mère ?»« Pourquoi l'as-tu tuée ?» dit Julia presque endormie. « Je ne l'ai pas tuée. Pas physiquement. » Il s'était rappelé dans son rêve la dernière vision qu'il avait eue de sa mère, et pendant les quelques minutes de son réveil, le faisceau de petits faits qui accompagnaient cette vision lui était revenu à l'esprit. C'était un souvenir qu'il avait volontairement repoussé de sa conscience pendant des années. Il n'était pas certain de la date à laquelle cela s'était passé, mais il ne devait pas avoir moins de 10 ans. Il en avait peut-être même 12 quand l'événement avait eu lieu. Son père avait disparu quelque temps auparavant, combien plus tôt il ne pouvait pas se souvenir. Il se souvenait mieux de la rage, les circonstances difficiles de l'époque, les paniques périodiques à propos des raids aériens et des abris dans les stations de métro, les tas de décombres partout, les proclamations inintelligibles affichées au coin des rues, les bandes de jeunes en chemise de la même couleur, les énormes files d'attente à l'extérieur des boulangeries, les tirs intermittents de mitrailleuses au loin et surtout, le fait qu'il n'y avait jamais assez à manger. Il se souvenait des longues après-midi passées avec d'autres garçons, en fouillant les poubelles et les tas d'ordures, en ramassant des nervures de feuilles de choux, les pelures de pommes de terre, parfois même des morceaux de croûte de pain rassis, dont il grattait soigneusement les cendres. On savait qu'il transportait de la nourriture à bestiaux et que parfois, à la faveur de chaos dans les mauvais passages de la route, il répandait des fragments de tourteaux. Lorsque son père eut disparu, sa mère ne montra ni surprise ni deuil violent, mais un changement soudain est intervenu en elle. Elle semblait être devenue complètement dépourvue d'esprit. Il était évident, même pour Winston, qu'elle attendait un événement qu'elle savait devoir se produire. Elle faisait tout ce qui était nécessaire. Cuisiner, laver, réparer, faire le lit, balayer le sol, dépoussiérer la cheminée, toujours très lentement, et avec un curieux manque de mouvement superflu, comme un personnage qui se déplace indépendamment de son auteur. Son corps volumineux et bien proportionné semblait retomber naturellement dans l'immobilité. Pendant des heures, elle restait assise presque immobile sur le lit, soignant sa jeune sœur, un petit enfant de 2 ou 3 ans, malade et très silencieux, avec un visage rendu simiesque par la minceur. Très occasionnellement, elle prenait Winston dans ses bras et le pressait contre elle pendant longtemps sans rien dire. Il était conscient, malgré sa jeunesse et son égoïsme, que c'était d'une manière ou d'une autre lié à la chose jamais mentionnée qui était sur le point de se produire. Il se souvenait de la pièce dans laquelle il vivait, une pièce sombre, sentant le renfermer, qui paraissait à moitié rempli par un lit recouvert d'une courte pointe blanche. Il y avait un fourneau à gaz dans la galerie de la cheminée, une étagère où l'on gardait la nourriture et à l'extérieur, sur le palier, un évier de faïence brune commun à plusieurs pièces. Il se souvenait du corps sculptural de sa mère, penché sur le gaz pour remuer quelque chose dans une casserole. Surtout, il s'est souvenu de sa faim continuelle et des sordides batailles à l'heure des repas. Il demandait à sa mère avec insistance encore et encore pourquoi il n'y avait pas plus de nourriture. Il criait et tempêtait contre elle. Il se souvenait même des différents tons de sa voix qui commençaient à muer prématurément et explosaient parfois d'une façon particulière. Ou bien il tentait une note de pathos pleurnichard dans ses efforts pour obtenir plus que le partage. Sa mère était tout à fait prête à lui donner plus que sa part. Elle considérait qu'il allait de soi que lui, le garçon, devait avoir la plus grande part, mais quelle que soit la quantité qu'elle lui donnait, il exigeait invariablement davantage. À chaque repas, elle le suppliait de ne pas être égoïste, de se souvenir que sa petite sœur était malade et avait également besoin de nourriture, mais cela ne servait à rien. Il criait de rage lorsqu'elle s'arrêtait de verser. Il essayait d'arracher la casserole et la cuillère de ses mains. Il prenait des morceaux de l'assiette de sa sœur. Il savait qu'il affamait les deux autres, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il sentait même qu'il avait le droit de le faire. La faim bruyante dans son ventre semblait le justifier. Entre les repas, si sa mère ne montait pas la garde, il chapardait constamment les misérables nourritures sur les étagères. Un jour, une ration de chocolat a été distribuée. Il n'y en avait pas eu depuis des semaines et des mois. Winston se souvenait clairement du précieux petit morceau de chocolat. C'était une tablette de 2 onces. On parlait encore d'onces à cette époque, à partager entre eux trois. Il était évident qu'elle devait être divisée en 3 parties égales. Soudain, comme s'il écoutait quelqu'un d'autre, Winston s'est entendu exiger d'une voix forte qu'on lui donnât la pièce entière. Sa mère lui dit de ne pas être avide. Une longue et lancinante dispute avec des reproches de part et d'autre, des cris, des gémissements, des pleurs, des remontrances, des marchés. Sa petite sœur, accrochée à sa mère des 2 mains, exactement comme un bébé singe, s'asseyait pour le regarder par-dessus son épaule avec de grands yeux tristes. À la fin, sa mère brisa les 3/4 du chocolat et les donna à Winston, en donnant l'autre quart à sa sœur. La petite fille s'est emparée et le fixa d'un air sourd, ne sachant peut-être pas ce que c'était. Winston se mit à la regarder pendant un moment, puis d'un bond rapide et soudain, arracha le chocolat d'entre les mains de sa sœur et s'enfuit vers la porte. Sa mère l'appela « Winston !» Winston, reviens, rends à ta sœur son chocolat. » Il s'est arrêté, mais n'est pas revenu. Les yeux anxieux de sa mère étaient fixés sur son visage. Même à ce moment-là, elle pensait à l'événement. Il ne savait lequel, qui était sur le point de se produire. Sa sœur, consciente d'avoir été frustrée de quelque chose, avait poussé un faible gémissement. Sa mère passa ses bras autour de l'enfant et pressa son visage contre son sein. Quelque chose dans le geste lui disait que sa sœur était mourante. Il se retourna et s'enfuit dans les escaliers avec le chocolat qui fondait dans sa main. Il n'a jamais revu sa mère. Après avoir dévoré le chocolat, il se sentit quelque peu honteux de lui-même et traîna par les rues pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la faim le ramena à la maison. Quand il rentra, sa mère avait disparu. Cela devenait déjà courant à ce moment-là. Rien n'avait disparu de la pièce, sauf sa mère et sa sœur. Il n'avait pris aucun vêtement, pas même le manteau de sa mère. Jusqu'à ce jour, il ne savait pas avec certitude si sa mère était morte. Il était parfaitement possible qu'elle avait été simplement envoyée dans un camp de travail forcé. Quant à sa sœur, elle aurait pu être enlevée, comme Winston lui-même, à l'une des colonies pour les enfants sans-abri. On les appelait « centres de conversion », qui s'étaient développés à la faveur des guerres civiles. ou elle aurait pu être envoyée au camp de travail avec sa mère. Ou bien encore, on l'avait simplement laissée mourir n'importe où. Le rêve était encore vif dans son esprit. Surtout le geste protecteur du bras enveloppant dans lequel la complète signification de ce rêve semblait contenue. Son esprit se tourna vers un autre rêve qu'il avait eu 2 mois auparavant. Exactement comme sa mère était assise sur le petit lit sale recouvert d'un couvre-pied blanc, l'enfant agrippé à elle, il l'avait vue, assise dans un navire qui sombrait, loin au-dessous de lui. Elle s'enfonçait de plus en plus à chaque minute, mais levait encore les yeux vers lui, à travers l'eau qui s'assombrissait. Il raconta à Julia l'histoire de la disparition de sa mère. Sans ouvrir les yeux, elle se retourna et s'installa dans une position plus confortable. « J'imagine que tu étais un petit cochon bestial à l'époque, » dit-elle indistinctement. « Tous les enfants sont des cochons. » « Oui, mais le vrai point de l'histoire. » D'après sa respiration, il était évident qu'elle allait se rendormir. Il aurait aimé continuer à parler de sa mère. D'après ce qu'il pouvait s'en rappeler, il ne pensait pas qu'elle eût été une femme extraordinaire. Encore moins une femme intelligente, et pourtant, elle possédait une sorte de noblesse, une sorte de pureté, simplement parce que les normes auxquelles elle obéissait étaient privées. Ses sentiments étaient les siens. Elle ne pouvait pas être modifiée de l'extérieur. Il ne lui serait pas venu à l'esprit qu'une action inefficace est par là dépourvue de signification. Si vous avez aimé quelqu'un, vous l'avez aimé. Et quand vous n'aviez rien d'autre à donner, vous lui avez quand même donné l'amour. Quand le dernier morceau de chocolat avait été enlevé, la mère avait serré l'enfant dans ses bras. C'était un geste inutile qui ne changeait rien, qui ne produisait pas plus de chocolat, qui n'empêchait pas la mort de l'enfant ou la sienne. Mais il lui semblait naturel de le faire. La femme réfugiée dans le bateau avait également couvert le petit garçon avec son bras, ce qui était aussi inefficace contre des balles qu'une feuille de papier. Le parti avait commis le crime de persuader que les impulsions naturelles, les sentiments naturels étaient sans valeur, alors qu'il dérobait en même temps à l'individu tout pouvoir sur le monde matériel. Quand on se trouvait entre les griffes du parti, ce que l'on sentait ou ne sentait pas, ce que l'on faisait ou se retenait de faire n'avait littéralement aucune importance. On disparaissait et personne n'entendait plus parler de vous, de vos actes. Vous étiez aspiré hors du cours de l'histoire. Et pourtant, pour le peuple, seulement 2 générations avant, n'essayaient pas de changer l'histoire. Ils étaient gouvernés par des loyautés privées qu'ils n'ont pas remis en question. Ce qui comptait, c'était les relations individuelles. Et un geste totalement impuissant, une étreinte, une larme, une parole prononcée à un homme mourant, pouvait avoir une valeur en soi. Les prolétaires, lui semblait-il soudain, étaient restés dans cette condition. Ils n'étaient pas loyaux envers un parti ou un pays ou une idée. Ils étaient loyaux les uns envers les autres. Pour la première fois dans sa vie, il n'a pas méprisé les prolétaires, ni pensé à eux simplement comme une force inerte qui, un jour, s'animera et régénérera le monde. Les prolétaires étaient restés humains. Ils ne s'étaient pas endurcis à l'intérieur. Il s'était accroché aux émotions primitives qu'il avait lui-même dû réapprendre avec effort. Et en pensant à cela, il s'est rappelé, sans pertinence apparente, comment il avait vu, il y a quelques semaines, une main posée sur le trottoir et l'avait enfoncée dans le caniveau comme si c'était un pied de chou. « Les prolétaires sont des êtres humains, » dit-il à voix haute. « Nous ne sommes pas humains. » « Pourquoi pas ?» dit Julia qui s'était réveillée à nouveau. Il réfléchit pendant un moment. « Tu n'as jamais pensé, a-t-il déclaré, que la meilleure chose à faire pour nous serait simplement de sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard et de ne jamais se revoir ?»« Oui, mon chéri, cela m'est venu à l'esprit plusieurs fois, mais je ne le ferai tout de même pas. » Nous avons eu de la chance, a-t-il dit. Mais cela ne peut pas durer longtemps. Tu es jeune, tu as l'air normale et innocente. Si tu continuais à vivre sans fréquenter des gens comme moi, tu pourrais rester en vie pendant encore 50 années. Non, j'ai tout réfléchi. Ce que tu fais, je vais le faire. Et ne sois pas trop découragée. Je suis plutôt douée pour rester vivante. Nous pourrions être ensemble pendant encore 6 mois, 1 an. On ne sait pas. Mais au bout du compte, nous sommes certains d'être séparés. Est-ce que tu te rends compte à quel point nous serons seuls? Quand ils se seront emparés de nous, nous ne pourrons rien, absolument rien, l'un pour l'autre. Si je me confesse, ils te fusilleront. Si je ne me confesse pas, ils te fusilleront de la même façon. Rien de ce que je peux faire ou dire, ou m'abstenir de dire, rien ne retardera ta mort de 5 minutes. Aucun d'entre nous ne saura même si l'autre est vivant ou mort. Nous allons être totalement sans pouvoir d'aucune sorte. La seule chose qui compte, c'est que nous ne devons pas nous trahir les uns les autres, même si cela ne peut pas faire la moindre différence. Pour ce qui est de la confession, dit-elle, nous nous confesserons, c'est sûr. Tout le monde se confesse. On ne peut pas faire autrement. Ils vous torturent. Je ne parle pas de confession. Se confesser n'est pas trahir. Ce que l'on dit ou fait ne compte pas. Seuls les sentiments comptent. S'ils peuvent m'amener à cesser de t'aimer, là sera la vraie trahison. Elle y a réfléchi. Ils ne peuvent pas faire ça, dit-elle finalement. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent vous faire dire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas vous le faire croire. Ils ne peuvent pas entrer en vous. Non, dit-il avec un peu plus d'espoir. Non, c'est tout à fait vrai. Ils ne peuvent pas entrer en nous. Si tu peux sentir que rester humain vaut la peine, même si cela ne peut avoir aucun résultat, peu importe. Tu les as battus. Il pensa au télécran et à son oreille qui ne dort jamais. Ils pouvaient vous espionner nuit et jour, mais si vous gardiez votre tête, vous pouviez encore les déjouer. Malgré toute leur intelligence, ils ne s'étaient jamais rendus maîtres du secret qui permettrait de découvrir ce que pense un autre homme. Peut-être cela était-il moins vrai quand on se trouvait entre leurs mains. On ne savait pas ce qui se passait au sein du ministère de l'amour. Mais il était possible de deviner torture, drogue, instruments délicats qui enregistrent vos réactions nerveuses, usure progressive par l'insomnie, la solitude et les interrogations persistantes. Les faits, en tout cas, ne pouvaient pas être tenus cachés. Ils étaient découverts par des enquêtes. On vous en arrachait l'aveu par la torture. Mais si le but n'était pas de rester en vie, mais de rester humain, qu'importait en fin de compte la découverte des faits? Ils ne pouvaient pas altérer vos sentiments. D'ailleurs, vous ne le pourriez pas vous-même, même si vous le vouliez. Ils pourraient mettre à nu même les plus petits détails de tout ce que vous avez fait ou dit. Mais le fond du cœur, dont le fonctionnement était mystérieux même pour vous, restait imprenable.